Reconstruction, réduction des dépenses, fiscalité, ce sont les dossiers prioritaires du gouvernement. Son président Alcide Ponga était notre invité ce matin au lendemain de l'attribution des secteurs. Le retour de la foire de Bourail confirmé, elle aura bien lieu cette année du 15 au 17 août. Ce week-end, l'Ordre de Malte sollicitera comme chaque année la générosité des Calédoniens pour lutter contre la lèpre. Depuis les exactions, le nombre de cas augmente à nouveau sur le territoire. En métropole, le Premier ministre veut scinder en deux le projet de loi de fin de vie. La proposition fait vivement réagir. Aux USA, Donald Trump continue de signer des décrets, notamment pour lutter contre l'immigration illégale. Il veut supprimer le droit du sol et déclare l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Et puis une invitée dans la page sport, nous recevrons la Calédonienne Yolaine Yengo. Elles nous parleront de son avenir et de ses projets dans le rugby. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, je vous rappelle qu'un camion s'est renversé dans le col de la pirogue. Ce matin, il n'y a pas de blessés, mais des perturbations pour la circulation sont à prévoir dans l'après-midi. L'accident s'est produit dans le sens Tontouta-Nouméa, dans la descente du col de la pirogue, juste avant Port-la-Guerre. Pour le moment, les voitures peuvent passer, puisque le camion est dans le fossé. Mais une grue va intervenir à partir de 13h pour sortir le poids lourd. Les opérations pourraient durer une partie de l'après-midi. Par conséquent, une déviation sera mise en place dans les deux sens, en passant par la route du littoral. Les automobilistes qui circulent dans le secteur sont évidemment invités à faire preuve de la plus grande prudence. Depuis hier, le 18e gouvernement est donc en ordre de marche et peut exercer toutes ses prérogatives. Près d'un mois après la chute provoquée par la démission de Jérémy Katidjo-Monnier, les 11 nouveaux membres ont réussi à se mettre d'accord, même si certains ont manifesté leur déception sur l'attribution des secteurs. Cette répartition a donné lieu à quelques discussions, nous a dit le président du gouvernement, Alcide Ponga, qui était notre invité ce matin. Et nous lui avons demandé s'il considérait que cette répartition était équilibrée.
Quand on regarde les groupes politiques qui sont représentés au gouvernement, la pseudo-majorité ou le plus gros groupe récupère les secteurs qui sont importants, mais les autres groupes, il n'y a pas eu beaucoup de chamboulement. Donc on a gardé à peu près les mêmes secteurs sur les mêmes groupes politiques. Ensuite, c'est sûr qu'il y a eu des discussions des uns et des autres. On aurait peut-être aimé avoir des gros pôles logiques pour pouvoir faire le travail, mais c'est un exercice de contorsion assez compliqué entre la logique pragmatique des choses et les désirs d'errata des uns et des autres. Quoi. On aurait pu faire mieux, mais je pense qu'on a pas mal atterri.
On a pas mal atterri, estime Ponga, qui pense également que la question de la désignation d'un vice-président devrait pouvoir se faire dans 2 ou 3 semaines. Il y a quand même des difficultés autour de la désignation d'un vice-président, mais aussi sur la répartition des secteurs, ce qui montre qu'il existe différentes approches au sein du gouvernement qui ne disposent pas d'une majorité stable. Il faut faire avec, nous a dit Alcide Ponga.
Je pense que cet état de fait est présent depuis 2019. Ce sont les élections de 2019 qui ont donné cette cartographie-là un peu plus claire dans les provinces. Mais quand on arrive au Congrès, il n'y a pas de majorité réelle qui se dégage. Et donc, ça se reflète automatiquement au gouvernement.
Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est compliqué?
Écoutez, moi, je ne dirais pas si c'est une bonne chose, une mauvaise chose. C'est la démocratie qui a parlé à un moment donné. Donc, je reviens en 2019. Maintenant, aujourd'hui, à nous, en toute bonne intelligence, de savoir travailler et de dégager sur des dossiers des majorités. Parce que, je le répète, non seulement nous avons que 10 mois pour travailler, et surtout, les Calédoniens l'attendent et la situation l'exige.
La situation l'exige, il faut maintenant se mettre au travail, estime Alcide Ponga, et il y a des dossiers prioritaires à gérer.
Nous n'avons que 10 mois, nous ne pourrons pas tout faire, et donc les priorités sur lesquelles je souhaite partager avec mes collègues du gouvernement, ça sera d'abord la question de la reconstruction. Il faut qu'on travaille avec l'État pour voir comment est-ce qu'on peut faire les choses bien et que les Calédoniens s'y retrouvent, surtout parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Il y a la question également de la réduction de la dépense publique et d'une réorganisation qu'on devra réfléchir ensemble. Et je le dis sur vos antennes, le travail a été fait par les administrations et le précédent gouvernement. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faudra juste prendre ce travail-là et le mettre en application. Et puis ensuite, il y a toute cette question de la fiscalité. Il y a eu un vœu qui a été voté au Congrès pour que le gouvernement puisse mettre en place un séminaire. Je pense que c'est une bonne idée qu'on puisse se partager les choses et que le gouvernement pose les bases de ce travail-là à un moment donné pour qu'on puisse avoir une certaine cohérence sur les réflexions que nous avons au gouvernement et que ça puisse dégager une certaine majorité au Congrès.
Alcide Pongat rappelle qu'il faut donc lancer ces chantiers très vite car le gouvernement a une durée de vie maximum de 10 mois jusqu'aux prochaines élections provinciales qui doivent avoir lieu au plus tard avant fin novembre 2025. Dans ce cadre, les discussions qui s'ouvrent à Paris à la fin du mois à la demande du Premier ministre et auxquelles participera Alcide Pongat sont très importantes.
Les discussions sur Paris, je pense que l'ensemble des groupes politiques aujourd'hui attendent à ce qu'il y ait plus de clarification au niveau de l'État sur ce qui va se passer en termes d'ordre du jour, en termes de timing de discussion. Et donc on participera le moment venu, parce que c'est aussi important. Et je considère, à côté des trois points que j'ai évoqués pour le travail du gouvernement, je considère aussi que ce sujet-là est un sujet capital pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ça fait partie des responsabilités qui nous incombent aujourd'hui. Et donc ceux qui seront appelés à la table de négociation, des deux côtés d'ailleurs, je pense qu'il faudra ferrailler dur pour défendre les convictions de chacun, mais avec un objectif au bout, il faut qu'on sorte avec quelque chose, parce qu'on se risquerait à enfermer la Calédonie dans une impasse dont on ne sait l'issue.
Le président du gouvernement, Alcide Pongat, qui était donc notre invité ce matin à 7h30, interview à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Et notez que pour se consacrer entièrement à sa tâche, Alcide Pongat a démissionné hier de son siège de maire de Kouaoua. Le conseil municipal se réunira vendredi prochain pour désigner son successeur parmi les membres actuels de l'exécutif municipal.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Après l'attribution des secteurs, pensez-vous qu'une majorité stable va se dégager au gouvernement ? Si vous pensez qu'une majorité stable va se dégager, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 97% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils comprennent la décision de la province sud de réduire ses aides aux boursiers face aux difficultés financières qu'elle rencontre. Ils sont 3% à ne pas le comprendre. Les membres du Conseil économique et social étaient de nouveau réunis ce matin à l'hôtel de ville de Nouméa. Il s'agissait, Lionel Sabot, cette fois-ci, d'examiner un avant-projet de loi du pays visant à modifier le code du commerce en Calédonie.
Un texte découpé en deux grandes parties, une partie au travers de deux articles visant à modifier le code du travail pour les entreprises de production locale qui ont perdu leur possibilité de produire après les émeutes afin de leur donner la possibilité de pouvoir faire de l'importation sous certaines conditions de texte. L'autre volet du texte était plus technique et concernait des précisions pour une application plus forte de l'autorité de la concurrence dans le domaine du commerce. Écoutez Bruno Condoya, le vice-président de la Commission du développement économique, de la fiscalité et du budget au Conseil économique, social et environnemental.
Il y a eu beaucoup de questions, mais de questions sans réponse ferme. On apprend lors de débats que ne serait-ce que l'autorité de la concurrence première concernée au travers de ces modifications, n'a pas été encore saisie par le gouvernement. Concernant les deux premiers articles, on a aussi appris qu'il y avait des amendements pour essayer de le passer coûte que coûte. Ce texte, cet avant-projet émane du 17e gouvernement, qu'en va-t-il être du nouveau 18e ? Est-ce qu'on a travaillé pour rien ? Est-ce qu'on aura des modifications derrière ? Donc trop de questions restées en suspens.
Et après plus d'une heure et demie de débat, les membres du Conseil économique, social et environnemental ont émis un avis réservé sur ce projet, sur cet avant-projet de loi du pays. Les membres du CESE qui plaident également pour une refonte totale du Code du commerce.
En bref, une première audience au palais de justice de Paris dans le procès en diffamation de Sonia Backès. La présidente de la province sud avait qualifié Christian Théin de chef des terroristes lors d'une interview à la radio. Le leader de la CCAT a déposé un recours en diffamation. L'audience qui s'est tenue hier était destinée à fixer le calendrier, car le dossier ne sera pas jugé sur le fond avant le 15 janvier 2026. Christian Théin, incarcéré à Mulhouse, et Sonia Backès, restée à Nouméa, a été représentée à cette audience par leurs avocats. La présidente de l'Assemblée de la province sud se défend en citant une note du Centre de recherche de la Gendarmerie nationale parue ce mois-ci et qui évoque le terrorisme indépendantiste en Calédonie et les violences insurrectionnelles. La gendarmerie déclare que des tentatives d'ingérence azerbaïdjanaise et russe ont été établies. Dans l'actualité économique, le moment est venu, a déclaré Christelle Bory, la PDG d'Eramet, qui annonce qu'elle va quitter son poste de directrice générale du groupe en mai prochain, après deux mandats de 4 ans. Elle souhaite toutefois rester présidente du conseil d'administration de l'actionnaire majoritaire de la SLN. Et puis le collectif Notre Santé en Danger réagit à la proposition de loi déposée par les loyalistes sur le bureau du Congrès. Parmi les 6 axes du texte, on retrouve des mesures d'attractivité en faveur des professionnels de santé. Il est notamment prévu d'appliquer un abattement fiscal de 30% sur l'impôt sur le revenu pour les médecins qui s'engagent à exercer 5 ans sur le territoire. seraient concernés les professionnels qui exercent dans un secteur ou dans une spécialité en tension. Le collectif Notre Santé en danger salue la mesure, mais souhaite que ce dispositif soit étendu à l'ensemble des soignants afin de faire face à la pénurie. 11h41, une première pause dans ce journal. Dans un instant, on voit ce qui fait le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment la confirmation qu'il y aura bien une foire de Bourail cette année.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La foire de Bourail aura donc bien lieu les 15, 16 et 17 août prochains. Le conseil d'administration de la foire l'a annoncé cette semaine. Après l'annulation de l'édition 2024 en raison des violences du mois de mai dernier, les Calédoniens vont donc retrouver ce grand événement sur l'hippodrome de Téné. Une joie pour Livaï Roy, président du comité d'organisation, car au-delà du succès populaire, cet événement est important pour le monde de la brousse.
On est très heureux, nous, de pouvoir la réaliser. On avait beaucoup bossé sur la 47e l'année dernière, et vu qu'elle n'a pas pu avoir lieu, donc grosse déception. Et aujourd'hui, oui, on est très heureux de pouvoir la faire, et puis avoir en tout cas l'association et les bénévoles qui sont au taquet et pouvoir la mettre en place. Quoi. On va continuer en tout cas sur la grande histoire de la foire de Bourail, mais on va plus la ramener sur le monde agricole et patrimoine calédonien, partir un petit peu sur ce qui se faisait avant. Ben, on veut ramener la joie, on veut ramener ce que les foires apportent. Hein. Donc, ces grandes foires qui rassemblent et qui essayent de dire qu'on peut reconstruire cette nouvelle Calédonie tous ensemble. Et c'était essentiel de l'annoncer le plus tôt possible pour que tous nos artisans, tous les partenaires de cette foire se mettent en ordre de marche pour y répondre au maximum. Parce que aujourd'hui, on sait très bien que le porte-monnaie calédonien a subi. Mais ces foires-là, pour Bourail en tout cas, pour l'économie de la brousse, est très importante.
Le comité de foire de Bourail avait également annoncé vouloir pérenniser le Royal Caledonia Show en décembre à Nouméa, mais pour le moment, la date n'a pas été annoncée. La lèpre en Nouvelle-Calédonie est une maladie qui est malheureusement toujours d'actualité. Dans certaines zones du monde, la lèpre a été éradiquée, mais ce n'est pas le cas sur le territoire et l'Ordre de Malte poursuit donc sa campagne de sensibilisation, Léana Colombo.
Fin 2023, l'Ordre de Malte avait lancé avec la DAS la campagne « Vers un zéro lèpre » avec un livret explicatif destiné au personnel médical ainsi qu'une exposition sur ce thème. Des actions stoppées en raison des émeutes de mai dernier, mais aujourd'hui relancées. À l'occasion des Journées mondiales de la lèpre, les 25 et 26 janvier prochains, les bénévoles iront sur le terrain. Ils seront mobilisés dans le Grand Nouméa à la sortie des messes, mais aussi des grandes surfaces pour cette 72e quête annuelle. Yann Carpentier est le président de l'association de l'Ordre de Malte.
Chacun donne ce qu'il peut donner pour nous aider. Alors, pour aider l'Ordre de Malte France, qui gère un peu plus de 17 léproseries dans le monde, et aider bien sûr l'association locale, parce que lorsqu'on va dans une tribu qui est à 5 heures de route, il faut payer l'essence. Il n'y a pas une famille calédonienne qui n'a pas connu ou qui n'a pas eu dans sa famille ou ami un lépreux. On n'a pas encore basculé de génération, donc ils sont sensibilisés de manière assez générale. Et ce qui est fréquent, et ce qui nous touche beaucoup, c'est qu'ils sont généreux. Malheureusement, la situation elle est comme elle est, et on serait beaucoup difficile. Mais je veux dire, au lieu de 500 francs, 200 francs, c'est énorme pour nous.
Les exactions auront également relancé la progression de la maladie, en partie due au manque actuel de personnel médical sur le territoire, explique Diane Carpentier.
Je pense que vous auriez envie de me poser la question, combien y a-t-il de cas en Nouvelle-Calédonie ? Mais je vais vous dire, on n'en sait fichtre rien, parce que le cas ne pouvait être révélé qu'à partir du moment où le malade allait vers le médecin. Un, le malade ne se déplace plus, et deux, quand il peut se déplacer, il n'y a pas de médecin. Donc il fait marche arrière, donc il va vivre avec sa maladie sans peut-être savoir d'ailleurs qu'il l'a. Et à partir de ce moment-là, il va être contagieux et la donner à d'autres personnes. Plus longtemps ce système perdurera, plus longtemps il restera désinformé sur la maladie qu'il a, plus longtemps il la communiquera.
La lèpre est une maladie peu contagieuse qui se transmet par les voies respiratoires ou au contact de crachats et sécrétions nasales. Il est possible de guérir de la lèpre avec un traitement rapide. Dans le cas contraire, la maladie peut causer des infirmités définitives des membres et des yeux.
Une nouvelle pause dans ce journal à 11h et bientôt 46 minutes avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
You by Kotex, une gamme de protection hygiénique qui répond à tous vos besoins. En janvier, pour le mois de la solidarité féminine, achetez vos protections hygiéniques You by Kotex et soutenez une jeune femme dans le besoin.
Plus d'infos sur la page Facebook Le 4.
Les problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants, pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Bodin.
Avec l'actualité en métropole qui est dominée par deux propositions qui font plutôt réagir. La première proposition émane du Premier ministre lui-même. François Bayrou propose de découpler le projet de loi de fin de vie, mesure phare de la campagne d'Emmanuel Macron, à l'arrêt depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre propose donc de la scinder en deux. D'un côté, la partie consacrée à l'aide active à mourir et de l'autre, les soins palliatifs. Arthur Delaborde pour Europe 1.
La légalisation de l'aide active à mourir, question de conscience, doit être traitée séparément de celle plus consensuelle du renforcement des soins palliatifs, explique Matignon. François Bayrou, personnellement hostile à la création de ce qu'il appelait en 2023 un service public pour donner la mort, veut donc deux textes distincts, néanmoins examinés en même temps au Parlement. L'idée soulève une levée de boucliers, non seulement à gauche, mais aussi dans le propre camp du Premier ministre. Les protestations vont de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, à l'ancien rapporteur MoDem de la commission spéciale sur la fin de vie, Olivier Falorni, qui plaide pour un texte unique. Un autre parlementaire du parti de François Bayrou s'emporte. Il est intolérable de vouloir repousser l'aide à mourir aux calendes grecques, lance-t-il. En revanche, à droite, la démarche du chef du gouvernement est globalement saluée. On explique en substance que c'est une bonne chose de pouvoir avancer sur le sujet des soins palliatifs sans le lier à celui de l'euthanasie.
L'autre proposition qui fait réagir dans l'actualité en métropole est à mettre à l'actif de la nouvelle ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, évoquer une possible mise à contribution des retraités les plus aisés pour équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Mesure décriée dans son propre camp. Écoutez Mathieu Lefèvre, il est président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée.
Je trouve que c'est une mauvaise idée. Les retraités ont travaillé toute leur vie. On ne va pas les taxer encore plus une fois à la retraite. On a un peu la maladie des impôts dans notre pays. Je pense que dès qu'il y a un problème, on va le résoudre par un impôt nouveau. Il faut au contraire préserver le pouvoir d'achat des retraités et s'attaquer au véritable problème de ce pays qui est sa dépense publique.
Et la proposition de la ministre du Travail ne concernerait que les retraités qui perçoivent une pension supérieure à 2000 euros, c'est-à-dire 240 000 francs pacifiques. La lutte contre le narcotrafic à Marseille porte ses fruits, mais reste toujours insuffisante. Les chiffres sont pourtant encourageants. 24 meurtres liés au trafic de stupéfiants ont été recensés en 2024. C'est deux fois moins qu'en 2023. Il y a eu 2000 mises en examen, dont 200 pour meurtre. Stéphane Burgade pour Europe 1.
L'union sacrée, gendarmerie, police, magistrat, il faudra bien ça pour gagner plus qu'une bataille face aux narcotrafiquants, car les sources d'inquiétude sont multiples, les réseaux se rajeunissent, se féminisent, ils se radicalisent également, ce qui inquiète le procureur Nicolas Besson. Les méthodes sont toujours plus barbares, une violence sans limite des réseaux, y compris dans leur propre rang.
Il faut savoir quelle est la face cachée de ce narcotrafic, les dettes fictives de cette main-d'œuvre précaire, souvent mineure, les séquestrations, les tortures, c'est ça aussi le narcotrafic et je souhaite développer l'aspect traite des êtres humains.
Les routes d'accès sont encore trop nombreuses et la corruption une réalité, notamment sur le port maritime, que le préfet de police Pierre-Édouard Colliex entend renforcer à l'image de celui du Havre.
Nous allons mettre en place un bouclier portuaire et routier pour renforcer la sûreté portuaire. On a un besoin d'amélioration du suivi pour protéger les personnels des tentatives de corruption et pour protéger globalement la sécurité du port.
Et il faut faire mieux également sur la traque des biens mal acquis. Le procureur de la République promet d'aller les traquer même à l'étranger. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
L'actualité en métropole, c'est aussi la disparition de Bertrand Blier, le fils de Bernard Blier. Réalisateur et scénariste, il a souvent bouleversé les codes dans les films qu'il a réalisés, parmi lesquels on retiendra Les Valseuses, Tenues de soirée ou encore Trop belle pour toi. Bertrand Blier avait 85 ans. Direction les USA à présent, où Donald Trump entame sa présidence tambour battant. À peine en exercice, le président américain signe des décrets à tour de bras, notamment pour lutter contre l'immigration illégale. Il met fin au droit du sol et il déclare l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Caroline Baudry.
100 à 200 agents de l'ICE, le service américain des douanes et de l'immigration, sont déployés cette semaine, selon le Wall Street Journal. D'abord à Chicago, les villes de New York, Los Angeles, Denver et Miami sont aussi dans le viseur de Tom Homan, fraîchement nommé à la gestion des frontières. Il déclare à la télévision américaine viser en priorité les clandestins qui ont commis crimes ou délits.
Ce seront des opérations de répression ciblées. Quand les agents de l'ICE sortiront, ils sauront exactement qui ils cherchent et à peu près où les trouver. Entrer illégalement dans un pays est déjà un crime, puis commettre un crime contre un citoyen américain, le président Trump en a assez.
Mais cet ancien policier s'attend à ce que des États et des mairies démocrates ou des associations s'opposent à la politique fédérale de Washington.
On nous poursuivra en justice tous les jours, mais on fera quand même notre travail. À chaque élu, maire, gouverneur ou membre de conseils municipaux, votre première responsabilité est la protection de vos administrés. Venez autour de la table et aidez-nous, puisque avec ou sans votre aide, on le fera quand même.
700 000 clandestins sont soumis à une obligation de quitter le territoire, selon lui. Les premiers partiront cette semaine.
Il est 11h52. Dans un instant, on ouvre notre page sport avec notre invitée, la Calédonienne Yolène Yengo, qui viendra nous parler de ses objectifs et de ses projets.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Savez-vous que la lèpre touche encore une personne toutes les 2 minutes? Aujourd'hui, ce fléau mutile, handicape et exclut 3 millions de lépreux dans le monde. Engagé contre la maladie, l'Ordre de Malte dépiste, soigne et fait avancer la recherche.
À l'occasion de la Journée mondiale des lépreux, l'Ordre de Malte organise une quête ce samedi 25 et dimanche 26 janvier. Soyez généreux.
À 7h05, le matin sur RRB, vous avez un avis.
Écoutez, d'abord, merci de nous donner la parole pour nous exprimer.
Bonjour.
Avec Nicolas Legrand et dans le respect de chacun, vous commentez l'actualité en direct au 25 46 46.
Et je pense que c'est important.
Vous avez un avis, du mardi au vendredi à 7h05 sur RRB.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27. Jusqu'au vendredi 7 février, gagnez un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif offerts par l'hôtel de Poé ainsi que 2 vols offerts par Cap ULM. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Toute l'année, l'hôtel de Poé vous accueille dans une ambiance conviviale et familiale et Cap ULM vous fait survoler le lagon de Poé et le cœur de Vaud. Toutes les actus sur la page Facebook de l'hôtel. Profitez d'un séjour reposant et sportif à l'hôtel de Poé. Un cadeau d'une valeur de 122 000 francs. Tirage au sort vendredi 7 février à 14h. 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'InfoMag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et nous ouvrons cette page de sport avec notre invitée Yolène Yengo qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment parler rugby, Michael Zuneski, après une année 2024 marquée par la présence de Yolène sur le circuit mondial, mais aussi évidemment aux Jeux Olympiques.
Oui, exactement. Yolène Yengo, on doit tout d'abord revenir à cette page. On vous avait entendu un peu de temps après les JO, forcément. On est obligé d'en reparler. Maintenant, avec le recul, vous en êtes où de cette participation aux Jeux Olympiques? Ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité, mais désormais, avec le recul, vous digérez la nouvelle?
Donc avec le recul, bien sûr, une fierté parce que de représenter la Nouvelle-Calédonie, une fierté d'avoir participé à ces Jeux Olympiques qui étaient juste incroyables. Et bien sûr, j'ai quand même en tête la défaite en quart de finale contre le Canada qui me fait encore de temps en temps couler la larme. Là.
Ah ouais, vous aviez des mots durs, le cœur brisé, vous
le disiez après. Le cœur brisé, oui. Oui, oui, vraiment le cœur brisé. Mais je garde une très belle expérience malgré tout.
Oui, puisque ces Jeux Olympiques, il y a cette défaite en quart de finale, mais c'était vraiment l'aboutissement d'un long projet avec l'équipe de France. Toujours avec ce recul quand même, avoir été présente pour ces JO de Paris, on se souvient qu'à Tokyo c'était pire, vous n'étiez même pas sur le terrain.
Alors oui, je ne savais plus quoi dire du coup, mais c'est sûr que par rapport à Tokyo, bien sûr... très content d'avoir participé, très content d'avoir participé. En plus, avec un public français qui nous a poussé, vraiment haut. Moi, vraiment, c'est vraiment ce que je garde de ces jeux. C'est le public qui nous a vraiment poussé, qui criait à chaque passe, une belle expérience. Vraiment, je garde que ça. Après, par rapport à Tokyo, bien sûr, Tokyo réserviste. Départ de Tokyo la veille de la compétition, donc très très dur. Mais maintenant, c'est que des bonnes choses à garder, quoi, maintenant.
Il n'y a pas eu que les Jeux Olympiques, hein, 2024, c'était une année faste, avec évidemment l'objectif de Paris 2024 pour toute l'équipe de France. Sur le circuit mondial, des beaux podiums, l'équipe de France féminine qui termine à la troisième place du circuit mondial, ça, quand même, ça reste du positif à retenir.
Alors oui, bien sûr, on a eu une très très belle année, et personnellement, j'avais une belle perf. Après, on finit deuxième, parce qu'on était finaliste à Madrid, donc on finit deuxième au circuit mondial, pardon. Mais une très très belle année pour le 7, pour le rugby à 7, féminin et masculin. Bon, les garçons, qui ont fini premier, donc très fiers d'eux. Et l'image du 7, j'espère que maintenant, ça sera j'espère que le rugby à 7 sera vu. Plus vu en ce moment.
Oui, plus de visibilité, d'avoir participé au moins à tout ça, à tout ce qui s'est fait. Il y a certes eu cette médaille d'or pour l'équipe de France masculine, mais dans tous les cas, d'avoir participé à tout ce qui a été fait pour le rugby à 7, ça reste aussi un bon acquis.
Oui, bien sûr.
Alors, la page désormais de l'équipe de France, vous l'avez dit, pour vous, elle se tourne, hein, c'est bien ça ?
C'est ça. Après les Jeux Olympiques, c'était fini pour moi. Du coup, je ferme ce chapitre, ce beau chapitre.
C'est une décision personnelle ?
Non, pas personnelle. Alors, il y a eu un changement de staff. Donc, il y a eu un renouvellement, du coup, des joueuses derrière aussi. Donc,
Nouveau
projet. Pas beaucoup de jeunes qui vont préparer les prochains Jeux. Donc, pas forcément ce que j'aurais souhaité. Donc, c'est là aussi où ça a été dur après les Jeux, parce que je savais que c'était mes derniers Jeux. C'était la dernière compétition avec cette équipe de France. Donc, c'est là où ça a été très, très dur de finir sur cette place.
Oui, mais alors maintenant, comment vous envisagez la suite ? Tout d'abord, se dire ce rythme équipe de France, être dans le groupe France, cette intensité du haut niveau, passer à autre chose. On imagine que ça ne s'est pas fait en un déclic. Ça a été comment ? Ça rythmait votre vie depuis plusieurs années.
C'est ça. Et ben maintenant, j'ai gardé le rythme, en tout cas.
Toujours.
Je suis là, je continue à m'entraîner personnellement, déjà pour moi. Et c'est vrai que là, il y a de nouveaux projets qui arrivent, des beaux projets plutôt, donc qui restent mystérieuses, je tiens à le dire.
Oui, alors, tout cas, dire, qu'est-ce qu'on peut en dire pour le moment ? On ne doit pas tout révéler, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de cette suite pour votre carrière ?
Que ce sera un beau projet qui me rapprocherait aussi de la Nouvelle-Calédonie. Et que, en tout cas, tout ça, c'est que des projets où je vais prendre de l'expérience pour peut-être à long terme. Si je dois revenir ici.
Alors on va pas essayer de vous faire dire ce que vous voulez nous pas nous dire, mais on va quand même jouer au jeu des devinettes. C'est un projet dans le rugby ?
Oui, c'est un projet dans le rugby.
Voilà, donc on s'en
a rugby à 7.
Et dans la région ?
Joker.
Désormais, cette deuxième partie de carrière en fait qui s'offre à vous, on a le sentiment que après ce chapitre de l'équipe de France, vous avez la volonté de lâcher prise un peu. Maintenant, ça va être comment on prend ce qui vient.
C'est quoi ? Moi, je prends ce qui vient et c'est vraiment que du plaisir. Maintenant, j'ai vraiment envie de me faire plaisir et plus être dans un truc où comme quand j'étais dans l'équipe de France où rigueur, excellence, performance. Là, j'ai vraiment juste envie de me faire plaisir. Bien sûr, je suis compétitrice, donc je vais faire en sorte d'être performante, mais le plaisir avant tout.
Vous me l'aviez confié avant l'émission, il y a eu pendant un temps, en tout cas, la tentation de dire stop le rugby, hein. Ça vous a effleuré l'esprit en tout cas.
En tout cas, ça m'a effleuré l'esprit pendant 2 mois.
Tout de même.
Parce que après, bien sûr, après les Jeux Olympiques, j'avais plus... la déception était tellement énorme que du coup, je voulais plus entendre parler de rugby, je voulais plus entendre parler déjà des jeux, je voulais pas entendre parler des jeux, je voulais pas entendre parler de rugby. Moi, après ça, j'ai dit, je prends ma décision d'arrêter complètement le rugby. J'ai eu de la chance qu'il y a eu une expérience aux États-Unis m'a permis de redonner goût au rugby.
Retrouver le plaisir de jouer.
Donc, du coup, je me suis dit, non, mais ce sport, c'est vraiment fait pour moi. Donc, ça m'a redonné envie de rejouer. Et derrière, j'ai eu une nouvelle qui ils m'ont proposé un contrat à l'étranger. Et ouais, bien sûr que j'ai fait qu'accepter.
Yolène Diego, vous vivez finalement ce que vivent de nombreux sportifs de haut niveau, des moments de joie, des moments intenses, des déceptions aussi, hein, c'est le lot de tous les sportifs de haut niveau. Ça reste quand même, quel que soit le parcours, des expériences formidables pour votre vie.
Oui. C'est quelque chose... moi, clairement, c'est quelque chose qui me... Moi, ça m'a changé ma vie, en tout cas. Je sais que ça m'a changé ma vie. Et je tiens à... J'espère... En fait, j'espère juste que pour après, les jeunes, je leur souhaite de vivre la même expérience, même mieux, meilleur que moi, parce que pour le coup, je n'ai pas gagné les Jeux. Donc, j'espère qu'il y aura des jeunes qui vont venir qui vont gagner des Jeux.
Tout le monde ne peut pas gagner les Jeux, malheureusement.
Mais oui, c'est une très bonne expérience pour moi.
Justement, alors dans cette suite de carrière, hein, voilà toutes les projets qui peuvent se présenter à vous. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, la volonté, quand même, le petit objectif à très long terme, ça serait de pouvoir en faire profiter le rugby en Nouvelle-Calédonie.
En tout cas, c'était un de mes objectifs en partant, quand j'étais partie en 2015, c'est partir et prendre de l'expérience. En tout cas, c'était déjà être en équipe de France à 7, chose faite. Et. J'avais envie de prendre toute l'expérience que j'ai acquérie là-bas pour pouvoir revenir ici et partager aux jeunes d'ici.
D'ailleurs, vous continuez d'échanger maintenant avec le Pôle Espoir, hein, notamment de Nouvelle-Calédonie. Vous continuez d'échanger avec notamment les plus jeunes qui suivent vos pas. Vous leur espérez la même carrière que vous ?
Beaucoup de jeunes filles qui viennent me poser des questions pour par rapport à ma carrière. Donc, bien sûr... je suis beaucoup avec les filles, ce que je t'avais confié au début. Pas mal de filles qui sont venues en métropole pour les sélections et tout des jeunes. Toujours en contact avec. Je donne pas mal de conseils. Et bien sûr, je leur souhaite que d'être, de faire mieux que moi.
Vous êtes en quelque sorte leur marraine, on a envie de dire. Le message aujourd'hui que vous souhaiteriez passer, en tout cas, voilà, à tous ceux qui pratiquent le rugby en Calédonie, aux jeunes filles également, qui pourraient avoir envie de s'y mettre, ça serait quoi le message essentiel ?
Moi, pour moi, c'est le travail. Le travail. C'est travail et avoir confiance en soi.
Eh bien, le message est bien passé. Yolène Yengo, pendant ce séjour sur le territoire, merci beaucoup d'avoir accepté de passer par nos studios aujourd'hui.
Merci à vous.
Et on espère que vous viendrez nous parler de vos projets quand ils se réaliseront, qu'on n'ait plus de questions indiscrètes à vous poser. Merci en tout cas d'être venu dans les studios de Radio Rythme Bleu. On poursuit cette page sport, évidemment, avec les principaux résultats sur la scène nationale et internationale. Léo Fichou du tennis et l'expérience a parlé hier soir lors des quarts de finale de l'Open d'Australie.
Chez les dames, d'abord, Arina Sabalenka, numéro 1 mondial et double vainqueur du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, est venue à bout d'Anastasia Pavlyuchenkova en 3-7. Elle retrouvera l'Espagnole Paola Badosa en demi-finale. Chez les hommes, Novak Djokovic, 37 ans et vainqueur à 10 reprises de l'Open d'Australie, a battu Carlos Alcaraz en 4-7 hier soir. Malgré une alerte physique en fin de premier set, le Serbe sera bel et bien au rendez-vous des demi à Melbourne pour la 12e fois de sa carrière. Il affrontera l'Allemand Alexander Zverev. Mais avant ça, place au dernier quart de finale. Aujourd'hui, Madison Keys contre Elina Svitolina. Iga Swiatek face à Emma Navarro chez les dames, Ben Shelton contre Lorenzo Sonego et Yannick Sinner contre Alex de Minaur chez les hommes.
En cyclisme, à suivre aujourd'hui la deuxième étape du Tour Down Under, toujours en Australie, étape qui s'annonce riche en suspense sur un parcours long de 128 km 800. Trois ascensions exigeantes au programme, c'est Sam Welsford qui a remporté la première étape hier et qui portera donc sur cette étape le maillot ocre de leader. On va toujours rester dans la région avec du football et les U19 féminines qui connaissent leurs adversaires pour le prochain championnat d'Océanie.
Le tirage au sort a été effectué hier à la maison du football d'Auckland. Les jeunes cagous seront dans le groupe B, un groupe très relevé avec la Nouvelle-Zélande tenant du titre, Tahiti qui évoluera à domicile et le Vanuatu. Le championnat féminin U19 de l'OFC se déroulera donc à Tahiti du 21 septembre au 4 octobre. Le vainqueur obtiendra son billet pour la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans.
Le foot toujours, mais cette fois-ci en Europe avec la 7e journée de la première phase de Ligue des Champions.
Monaco s'est imposé 1-0 sur Aston Villa grâce à un but dès la 9e minute de jeu de Wilfried Tsengo. Victoire qui assure les joueurs du Rocher de disputer à minima les barrages de la Ligue des Champions. En revanche, Lille s'est inclinée pour la première fois depuis le 18 septembre. Défaite 2-1 contre Liverpool. Les Dogs qui sont à égalité de points avec les Monégasques au classement de cette phase de Ligue de la Ligue des Champions. Demain matin, Brest jouera contre le Shakhtar Donetsk et le Paris Saint-Germain recevra Manchester City.
Et on termine avec le handball. L'équipe de France a démarré de la meilleure des manières. Le tour principal du championnat du monde. Victoire 37-30 ce matin sur la Hongrie. Le prochain rendez-vous pour les Bleus, ce sera vendredi matin face aux Pays-Bas. Il est midi 6, c'est la fin de ce journal. Infomac se poursuit avec Thierry jusqu'à 13h lors du rappel des principaux titres de l'actualité. Je vous souhaite une belle après-midi.